بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc nous poursuivons inshallah sur le sujet du jour dernier. Allah Ta'ala dit: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Ce qui signifie: les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont point douté. Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont point douté. Surat al-Hujurat. Donc il faut croire au jour dernier sans aucun doute, car le doute contredit la foi. Le jour dernier est le jour du jugement, al-Qiyam. Il commencera avec la sortie des gens de leur tombe, après que notre maître Israfil, l'ange Israfil, aura soufflé dans le corps. Le jour du jugement dure 50 000 ans de ce que l'on compte. Le jour dernier est le jour du jugement, Al-Qiyam. Il commencera avec la sortie des gens de leur tombe, après que l'ange Israfil aura soufflé dans le corps. Le jour du jugement dure 50 000 ans de ce que l'on compte. Allah Ta'ala dit dans le Coran: fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, ce qui signifie en un jour qui dure 50 000 ans. Sourate Al-Ma'arij, ayah 5. Cependant, cette longue durée sera pour les pieux plus légère que le temps d'une prière prescrite. Il y a des corps qui auront été assimilés par la terre. Allah Ta'ala les fera redevenir comme ils étaient auparavant. Il y fera retourner les âmes, puis ils seront rassemblés pour le jugement al-Hisab, sur une terre différente de cette terre-ci, qui ne comporte ni montagne, ni mer, ni vallée, une terre que l'on appelle la terre changée, al-Ardul Mubaddalah. Alors les œuvres des gens seront pesées sur la balance, al-Mizan, qui est pourvue de deux plateaux, un pour les bonnes actions, al-Hasanat, et un autre pour les mauvaises actions, as-sayyi'at. Le non-croyant, lui, n'aura aucune bonne action. Allah Ta'ala dit: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. Surat Ibrahim, ayah 18, qui signifie: les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Ensuite, Dieu fera entrer les croyants pieux au paradis sans châtiment. Quant aux croyants désobéissants, ayant commis les grands péchés, il y aura une partie d'entre eux à qui Dieu pardonnera et qu'il fera entrer au paradis sans châtiment. Mais bien sûr, ils n'auront pas le même niveau que les musulmans pratiquants, pieux, car au paradis, il y a plusieurs niveaux. Et une partie que Allah châtiera en enfer et qu'il fera ensuite entrer au paradis. Les non-croyants qui sont morts en étant responsables, à savoir pubères, saints d'esprit, ayant entendu la base de l'appel à l'islam, ils n'entreront jamais au paradis. Allah les fera entrer en enfer où ils resteront éternellement. Allah Ta'ala dit: إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ce qui signifie: certes, Allah a maudit les non-croyants et a préparé pour eux un feu ardent dans lequel ils restent éternellement. Ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. Surat al-Ahzab, ayah 64-65. La signification de « Je témoigne que Muhammad est le messager de Allah » est: je sais, je crois fermement et je reconnais que notre prophète Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, est l'esclave de Allah et son messager envoyé à toute la création. Ce qui est visé par création ici, ce sont les humains et les djinns. Allah Ta'ala dit: لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, ce qui signifie: afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Surat Al-Furqan. En effet, cet avertissement est pour les humains et les djinns seuls. Les anges ne sont pas concernés par cet avertissement. En effet, Allah Ta'ala a créé les anges de sorte qu'ils ne choisissent que l'obéissance par la volonté de Allah. Ils sont tous obéissants, ils sont tous musulmans obéissants. Ils n'ont donc pas besoin d'un avertissement. La foi ont le message de notre maître Muhammad et le fondement même du deuxième témoignage. Le prophète Muhammad est arabe et fait partie de la tribu de Quraysh. Le prophète Muhammad est fils de Abdullah. Il est arabe et fait partie de la tribu de Quraysh. Quraysh étant la tribu la plus noble des Arabes. Allah Ta'ala a fait que Quraysh ait un mérite sur les autres tribus et que les autres tribus reconnaissent une faveur pour Quraysh. Le prophète Muhammad est né à la Mecque. Il y a reçu sa mission de prophète, c'est-à-dire que la révélation de la prophétie est descendue sur le prophète Muhammad alors qu'il résidait à la Mecque. Donc l'ange Jibril est venu voir le prophète alors qu'il se trouvait dans la grotte Hira, qui est visitée jusqu'à nos jours. Il y a des belles odeurs. Ensuite, le prophète a émigré à Médine sous ordre de Allah. Il y est décédé. C'est là-bas qu'il a été enterré. Et les gens le visitent à chaque occasion de pèlerinage ou de Umrah. Ils vont visiter le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa salam est véridique en tout ce qu'il a annoncé de la part de Allah Ta'ala. Le prophète ne se trompe pas sur les règles de la religion et sur la révélation. Il est véridique en tout ce qu'il a annoncé de la part de Allah Ta'ala, qu'il s'agisse des nouvelles des communautés et des prophètes qui nous ont précédés ou du commencement de la création. Il nous a appris par exemple que la première des créatures est l'eau, du jugement licite ou illicite de certains actes et de certaines paroles des esclaves, ceci permis, ceci interdit, ou de ce qu'il a annoncé des choses qui vont se produire dans l'avenir, dans le bas monde, comme les signes de la fin du monde, et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad ne se trompe pas sur la révélation ni sur les sujets religieux. Le prophète Muhammad est véridique en tout ce qu'il a annoncé de la part de Allah Ta'ala. Parmi cela, il y a la croyance au supplice de la tombe. Donc nous avions vu cela en détail dans les cours précédents. Donc il y a un châtiment de la tombe pour les non-croyants et certains musulmans désobéissants. Donc voir les détails dans les cours précédents. Et il y a la félicité de la tombe pour les musulmans vertueux. Donc la croyance en l'interrogatoire des deux anges Munkar et Nakir, la croyance en la résurrection, Al-Ba'th, la résurrection et la sortie des morts de leur tombe, après que Allah leur crée à nouveau le corps qui a été assimilé par la terre dans le cas où ils faisaient partie des corps qui sont assimilés par la terre. Il s'agit donc des corps autres que ceux des prophètes et des martyrs de combat. Certains saints, vertueux, également la terre n'assimile pas leur corps, cela ayant été confirmé suite à l'observation de plusieurs personnes rapportées par plusieurs personnes. Nous devons croire au rassemblement, Al-Hashr. Les gens seront rassemblés en un lieu qui est la terre changée. Elle est plate, ne comportant ni vallée, ni rivière, ni montagne. Donc on a vu cela aussi dans les cours précédents. L'exposition des actes, le jugement, Al-Hisab. Donc on a vu les détails. Allah parle aux esclaves et sa parole n'est pas des sons, n'est pas des lettres, n'est pas une langue arabe ni une autre langue, n'a pas de début, n'a pas de fin. Ils comprennent de la parole de Allah l'interrogatoire sur ce qu'ils ont fait, des bienfaits que Dieu leur a accordés. Et Dieu leur fait rendre les comptes très rapidement, ce qui indique que la parole de Dieu n'est pas des sons, n'est pas des lettres, ne ressemble pas à la parole des créatures. Donc on a vu les détails dans le cours précédent. La récompense et le châtiment dans l'au-delà. Donc on a vu aussi que la récompense est une grâce de la part de Allah et ce n'est pas une obligation qui est encombrée à Allah. Et le châtiment est une justice de la part de Allah et ce n'est pas une obligation qui est encombrée à Allah. En effet, rien n'encombre à Dieu, il n'a personne qui lui ordonne et qui lui interdit. Allah n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Il accorde par sa grâce, il prive par sa justice, il fait ce qu'il veut, tout lui appartient. S'il voulait, il aurait guidé tout le monde, mais Dieu a guidé certains et a égaré d'autres. Il a créé le paradis, il a prédestiné des gens pour le paradis, il a créé l'enfer, il a prédestiné des gens pour l'enfer. Le plus grand bienfait que Dieu accorde est la guider l'islam. Il faut croire aussi à la balance, à l'mizan, on a vu les détails sur cela. Le non-croyant n'aura que les mauvaises actions, car l'islam est une condition pour avoir la récompense. et le non-croyant est récompensé pour ses bonnes actions dans le bas monde, comme cela est parvenu dans le hadith. La récompense dans ce bas monde, l'argent, la santé, les enfants, c'est cela la récompense dans cette vie. Pour avoir les récompenses dans l'au-delà, il faut l'islam, être sur la croyance de l'islam, qui est la croyance de tous les prophètes. Il faut croire en l'enfer, à savoir la Géhenne, c'est-à-dire que l'enfer est déjà créé actuellement et qu'il demeurera sans fin. Donc il est un devoir de croire que l'enfer est la demeure du châtiment et qu'il ne s'anéantira pas. Allah l'a préparé pour les non-croyants, qui ont choisi la mécréance et ont refusé l'islam. Il y a dans l'enfer un châtiment concret, réel. La chaleur de l'enfer dépasse de beaucoup la chaleur de ce bas monde, et son froid dépasse de beaucoup le froid de ce bas monde. L'enfer existe actuellement, il se trouve sous la septième terre. Dans la septième terre, on a vu qu'il y a un endroit pour le châtiment des âmes des mécréants, qui s'appelle Sijjin, jusqu'à la résurrection. Car après la résurrection, les non-croyants entrent en enfer, corps et âme. Donc les non-croyants y resteront éternellement, ils n'en sortiront jamais. À savoir ceux qui sont morts, comme on a vu, responsables, pubères, saints d'esprit, ayant entendu la base de l'appel à l'islam. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Uqida ala nari alfu sanatin hatta ahmarrat, wa alfu sanatin hatta biyaddat, wa alfu sanatin hatta swaddat, fahiya sawda'u muzlimah. » Ce qui signifie: l'enfer a été attisé 1000 ans jusqu'à devenir rouge, et 1000 ans jusqu'à devenir blanc, et 1000 ans jusqu'à devenir noir. Il est noir, obscur, rapporté par At-Tirmidhi. Allah Ta'ala dit: Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wa la nasira. Ce qui signifie: certes, Allah a maudit les non-croyants et leur a préparé l'enfer où ils resteront éternellement à jamais. Ils ne trouveront personne à qui s'en remettre, ni personne pour les soutenir. Sourate Al-Ahzab. Ainsi, celui qui renie que l'enfer demeure éternellement n'est pas musulman. Donc, faire attention à cela. Il y a un grand savant qui s'appelle Taqiyyuddin As-Subki, qui, pour répliquer à un homme égaré, très connu, il a écrit un livre dans lequel il a cité 100 ayahs qui indiquent que l'enfer et le paradis n'ont pas de fin, 60 ayahs qui indiquent que le paradis n'a pas de fin, et 40 ayahs qui indiquent que l'enfer n'a pas de fin. Et dans les 40 ayahs, il dit qu'il y a ta'kid, la forte insistance, khalidina fiha abada, éternellement, sans fin. Donc il y a une forte insistance. Donc renier un seul verset est un blasphème. Que dire renier 40 versets? Donc il a fait cela parce que c'est un devoir d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Et à son époque, il y avait quelqu'un qui est le leader spirituel de tous les extrémistes, notamment les wahhabiyas. Donc cet homme-là, il a dit que l'enfer aura une fin. Et ceci est un blasphème. Donc c'est un sujet connu chez les musulmans, que l'enfer reste éternellement. Celui qui renie cela, donc, n'est pas musulman. En revanche, les musulmans qui faisaient partie des grands pécheurs, c'est-à-dire qui commettaient les grands péchés, ils sont morts sans s'être repentis, en deux sortes. Ceux à qui Allah épargnera le châtiment de l'enfer, par l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou par une autre cause, et que Allah fera entrer au paradis, par sa miséricorde, sans châtiment. Mais comme on l'a dit, ils n'auront pas le même niveau que les musulmans pieux, vertueux, au paradis. Et ceux que Allah châtiera un certain temps en enfer, puis il les fera sortir de l'enfer pour les faire entrer au paradis, car ils sont morts croyants. Il a été rapporté dans le hadith que le dernier musulman qui sortira de l'enfer et qui entrera au paradis, il aura comme tout ce bas monde 10 fois plus. Ça, c'est le dernier des musulmans qui sortira de l'enfer. Il aura au paradis comme toute cette vie, comme tout ce bas monde, et 10 fois plus. Que dire alors du musulman vertueux? Donc il convient de s'attacher à la foi et de préserver sa foi des choses qui l'annulent, comme les exemples qu'on a vus. Donc ainsi, celui qui meurt sur la mécréance, Dieu ne lui fait pas miséricorde dans le delà. Ar-Rahman, qui est un nom spécifique à Dieu, veut dire celui qui est très miséricordieux envers les croyants, c'est-à-dire les musulmans, et les non-croyants, les non-musulmans dans ce bas monde, et uniquement envers les croyants dans l'au-delà, spécifiquement aux croyants dans l'au-delà. C'est cela la signification du nom Ar-Rahman, qui est un nom spécifique à Dieu. Ainsi, dans cette vie, Dieu fait miséricorde aux musulmans et aux non-musulmans. Même l'air que respirent les non-croyants est une miséricorde de Dieu. Mais dans l'au-delà, la miséricorde de Dieu est spécifique aux musulmans. Ar-Rahim, c'est-à-dire celui qui est très miséricordieux envers les musulmans. Donc c'est cela la signification de Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman, celui qui fait miséricorde aux musulmans et aux non-musulmans dans cette vie, et dans l'au-delà, spécifiquement aux musulmans. Donc il n'est pas permis de demander miséricorde pour celui qui meurt non-croyant, car Dieu ne fait pas miséricorde aux non-croyants dans l'au-delà. Et on a vu bien sûr le croyant, c'est le musulman. Comme il a dit l'imam Abu Hanifa, il n'y a pas de foi sans islam, ni d'islam sans foi. Ils sont comme le plat et le revers d'une même chose. Donc comme on a vu, l'islam est la religion de tous les prophètes, c'est la seule vraie religion, c'est la seule religion conforme à la raison. Et bien sûr, la bonne intention à elle seule ne suffit pas pour être sauvé dans l'au-delà. Comme cela est expliqué dans Sourate Al-Kahf, Allah Ta'ala dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Ce qui signifie, dit, est-ce que je vous informe de ceux dont les actes sont vaines, ceux qui sont égarés et qui pensent faire le bien? Donc penser faire le bien ne suffit pas. Ceux-là qui ont mécru ont les signes de Dieu, le Coran et les preuves rationnelles, et au jour du jugement, ils ont mécru au jour du jugement. Ils n'auront aucune valeur au jour dernier. Leur rétribution est l'enfer à cause du fait qu'ils ont mécru et qu'ils se sont moqués des signes de Dieu et de ses prophètes. Donc en islam, l'intention de vouloir faire le bien à elle seule ne suffit pas. Selon le jugement de Dieu, l'intention toute seule ne suffit pas. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, dans Sourate Al-Mulk, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ce qui signifie, donc les mécréants en enfer diront, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Si on raisonne correctement, si on utilise sa raison correctement, on parvient à savoir que les statues, que le soleil, que la lune, qu'un homme ou qu'un vieillard qui habiterait le ciel ou le feu ou tout autre corps ne peut pas être Dieu, car il a une forme, une quantité, une localisation, donc il a besoin de qui lui ait donné cette forme, cette quantité, et celui qui a besoin n'est pas Dieu. Donc ceux qui adorent une imagination, un corps, ou ils s'imaginent quelque chose qui habite le ciel, ils l'adorent, ceux-là ils ne sont pas croyants, même s'ils le pensent. Penser faire le bien et vouloir faire le bien ne suffit pas pour être sauvé. La seule croyance conforme à la raison est la croyance de tous les prophètes, à savoir que Dieu existe, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qu'on ne peut pas l'imaginer, qui n'est pas un corps palpable ni impalpable, et qui n'est pas attribué des caractéristiques des corps, à savoir la forme, la quantité, la couleur, le changement, la localisation. Dieu est exempt de cela. Laïsa kamithlihi shay, absolument rien n'a de ressemblance avec Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. La foi, comme on a vu, c'est de reconnaître qu'on est incapable d'atteindre la réalité de Dieu, que Dieu, on ne peut pas l'imaginer, qui n'a besoin de rien, qui ne change pas, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qu'il entend, qu'il voit sans organe, qu'il parle sans langue ni lèvres, qui n'a besoin de rien, il est unique, il n'a pas d'associé. Donc comme on l'a dit, il n'est pas permis de demander miséricorde pour celui qui meurt non musulman. Car Dieu ne pardonne pas à celui qui meurt non croyant. Allah Ta'ala dit: Ma kana lin-nabi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ce qui signifie: Il n'est pas permis aux prophètes ni aux croyants de demander miséricorde pour les non-croyants après qu'ils ont su d'eux qu'ils sont morts sur la mécréance, même s'ils faisaient partie de leurs proches. Donc cette ayah a été révélée quand l'oncle du prophète, Abu Talib, est mort non-croyant. Abu Talib aidait le prophète, défendait le prophète, mais il n'a pas voulu rentrer en islam. Donc Dieu a interdit de demander miséricorde pour celui qui meurt non-musulman. Allah Ta'ala a dit dans le Coran: Wa rahmati wasi'at kulla shay, fa sa'aktubuha lil-ladhina yattaqun. Ce qui signifie: Ma miséricorde concerne toute chose, je la destine dans l'au-delà à ceux qui se gardent de l'association et de la mécréance, de toutes ces sortes. Yattaqun veut dire qui ont évité toutes sortes de mécréances. Il y a la mécréance, le fait d'associer à Dieu, d'attribuer à Dieu la forme, la quantité, donc d'adorer autre que Dieu, d'adorer une imagination. Le fait d'attribuer à Dieu la forme, la quantité, l'humeur, le changement, la localisation, la quantité, la direction, le besoin, comme ceux qui attribuent à Dieu le besoin du trône ou du ciel, ceux-là ne sont pas musulmans, même s'ils le prétendent. Dieu existe avant l'espace et le temps. Donc ça, c'est la mécréance qu'on appelle shirk. Il y a d'autres sortes de mécréances, se moquer du prophète, renier le caractère interdit de la consommation de l'alcool ou du porc, ou renier le caractère obligatoire de la prière. Donc ceci, de la mécréance autre que shirk. Donc la miséricorde de Dieu dans l'au-delà est réservée à ceux qui ont évité toutes sortes de mécréances, que ce soit shirk ou autre que le shirk. Donc c'est-à-dire la miséricorde de Dieu concerne dans le bas monde aussi bien le musulman que le non-croyant, comme on a vu, l'air, l'eau qui assouvit la soif que Dieu accorde dans cette vie aux musulmans et aux non-musulmans. Il dit fasa aktubuha, ce qui signifie je la destine, c'est-à-dire dans l'au-delà, lilladhina yattaqun, qui signifie à ceux qui se gardent de l'association du shirk et des autres sortes de mécréances. C'est-à-dire, je l'accorde exclusivement à ceux qui se gardent de la mécréance de toutes ces sortes, que ce soit shirk ou autre que le shirk. Dieu accorde sa miséricorde aux croyants et aux non-croyants dans le bas monde. Sa miséricorde les concerne tous, tandis que dans l'au-delà, sa miséricorde sera réservée aux croyants. Allah Ta'ala dit: وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Ce qui signifie: les gens de l'enfer ont appelé les gens du paradis. Déversez-nous de l'eau ou de ce que Dieu vous a donné. Ils ont répondu: certes, Dieu les interdit aux non-croyants. Sourate Al-A'raf. C'est-à-dire que Dieu interdit aux non-croyants la subsistance qui est utile, ainsi que l'eau qui étanche la soif dans l'au-delà. Et ce, parce qu'ils ont délaissé le droit le plus imminent de Dieu, le droit que rien ne remplace, qui est de croire en Dieu, en son messager. Dieu nous a accordé le fait d'exister, de respirer. Donc le plus important, c'est de croire en Dieu. Car sans l'existence, sans les organes que Dieu nous a donnés, on ne peut rien faire. On ne peut pas être utile aux gens, ni à soi-même. Donc le plus important, avant tout, c'est de croire en Dieu, qui nous a accordé l'existence, le fait de respirer, de voir, et des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin de nous. Il ne lui advient ni profit, ni nuisance. Or, Dieu a rendu l'entrée en islam, la plus imminente des grâces de Dieu, soit une chose facile. Et ceci en prononçant les deux témoignages après la connaissance de Dieu et de son messager. Donc l'entrée en islam, on a vu, c'est facile. Comme il a dit l'imam al-Nawawi, le retour à l'islam, c'est comme l'entrée en islam. Quelqu'un qui veut se convertir ou quelqu'un qui a fait une chose qui annule l'islam, il doit revenir à l'islam, attester qu'il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est son messager. L'entrée en islam est quelque chose de facile. Il suffit d'attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est son messager. Si quelqu'un ne sait pas dire Muhammad ou Ahmad, il dit Abul Ghassim est le messager de Dieu. Ce n'est pas une condition de se laver, de se doucher, d'être devant l'imam, de se circoncire, d'être le jour du vendredi ou d'apprendre l'arabe. Au contraire, comme a expliqué l'imam Nawawi et les grands savants sunnites, celui qui retarde quelqu'un qui voulait se convertir, lui-même il sort de l'islam, car cela revient à approuver la mécréance. Et approuver la mécréance, c'est de la mécréance. Dans l'islam, aider à la mécréance ou approuver la mécréance, ça annule l'islam. Donc quelqu'un qui veut se convertir, on ne peut pas lui dire attends, Tout comme quelqu'un, on a entendu de lui une mécréance, comme le fait d'insulter Dieu, on ne lui dit pas de dire Astaghfirullah, ou va faire la prière, ou va te doucher. La première chose qu'on lui dit, c'est de dire les deux témoignages. Pour entrer en islam, attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager de Dieu, en délaissant la mauvaise croyance. C'est comme ça, c'est comme cela qu'a lieu l'entrée en islam ou le retour à l'islam. Comme a expliqué cela, entre autres, l'imam An-Nawawi dans son livre Rawdatut Talibin. D'autre part, Dieu a rendu la mécréance facile. Ainsi, une seule parole qui signifie une moquerie ou une dépréciation à l'égard de Dieu ou de sa loi fait sortir celui qui l'a dit de la foi et le fait tomber dans la mécréance, qui est la pire des situations. Qu'il l'ait dite en étant sérieux, en plaisantant ou en étant en colère. Qu'il ait dit cette parole de mécréance en étant sérieux, en plaisantant ou en étant en colère, il n'a pas d'excuse, comme on a vu cela en détail dans le chapitre de la mécréance. Il y a notamment le hadith Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha finnari 70 kharifa. Certes, il arrive que l'esclave prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer 70 automnes, 70 ans de chute, qui fait parvenir au fond de l'enfer qui n'est réservé qu'aux mécréants. Donc ces détails sur la mécréance ont été amplement expliqués dans les livres de jurisprudence des écoles reconnues, c'est-à-dire les quatre écoles, qui ont jugé celui qui profère des paroles de mécréance devient non-croyant. Donc il y a la parole de quelques savants sunnites sur l'apostasie, comme l'imam An-Nawawi dans son livre Rawdatut Talibin, il détaille cela. Il cite l'imam Al-Qadhi Iyad, entre autres, qui est un grand savant malikite. Il y a par exemple l'imam Mujtahid, spécialiste de l'exégèse, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, décédé en 310 de l'Hégire. Il dit dans son livre Tahdhibul Athar, Inna min al-Muslimina man yakhruju min al-Islam min ghayri an yaqsid al-khuruj minhu. Certes, il y a parmi les musulmans qui sortent de l'islam sans qu'ils aient visé en sortir. C'est-à-dire, comme on a dit, même s'ils ne savaient pas que ça fait sortir de l'islam, du moment que c'est une parole qui comporte une apostasie. Ibn Hajar al-Asqalani, dans son fameux livre Fathul Bari, qui fait le commentaire de Sahih al-Bukhari, il rapporte du grand Hafiz Abu Awana, décédé en 316 de l'Hégire, qu'il a dit, Certes, il y a parmi les musulmans qui sortent de l'islam sans qu'ils aient visé en sortir et sans qu'ils aient choisi une autre religion que l'islam. وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام. Donc on a vu le hadith qui signifie certes il arrive que l'esclave de Allah prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant 70 automnes, c'est-à-dire une distance parcourue en 70 ans de chute pour atteindre le fond de l'enfer étant réservé aux non-croyants. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi, qui lui a donné le degré de Hassan. Dans le même sens, il existe un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith rapporté par Tirmidhi est une preuve que la chute dans la mécréance ne requiert pas comme condition d'avoir eu connaissance de la loi correspondante. Par exemple, même s'il ne savait pas qu'insulter Dieu annule l'islam, s'il insulte Dieu, comme dans certains pays musulmans, certains ils insultent Dieu sous l'effet de la colère. Donc cela annule son islam de s'être satisfait de l'acte, même s'il n'est pas satisfait de l'acte. Donc ce n'est pas une condition d'être satisfait de l'acte, ni d'avoir cru en la signification de la parole prononcée. Donc ce n'est pas une condition. Même s'il y croit pas, s'il attribue à Dieu le Fils, comme ils font dans certains pays aussi, cela annule son islam. Donc il y a aussi le grand cheikh Abdul Ghani An-Nabulusi, le Hanafi, décédé en 1143 de l'Hégire. Il a dit dans son livre Al-Fath al-Rabbani ou Al-Fayd al-Rahmani, quant au sort de mécréance selon la loi de l'islam, elles se divisent en trois. Elles englobent tous les genres de mécréance. Elles sont Tashbih, l'assimilation, Takdhib, le démenti, et Ta'til, l'athéisme. L'athéisme, c'est la forme la plus grave. Donc tous les cas de mécréance font mériter le châtiment éternellement. Mais plus la personne fait de mécréance, elle aura plus de châtiments. Et plus elle a un cas de mécréance plus grave, elle aura plus de châtiments Mais dans tous les cas, il y aura le châtiment sans fin. Et plus la personne fait de mécréance, plus cela l'augmente en mécréance. Comme c'est dit dans le Coran, Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Ziyadatun, une augmentation dans la mécréance. Et le verset, il parle de ceux des mécréants qui ont rendu licite ce que Dieu a interdit. Et cela les augmente en mécréance. Quant à l'assimilation tashbih, c'est de croire que Allah Ta'ala ressemble à l'une de ses créatures, comme ceux qui croient que Allah est assis sur le trône, ou qui croient qu'il a des mains, ou qu'il a telle image, ou tel aspect, ou que c'est une lumière, ou qu'il est au ciel, ou qu'il est dans une des six directions, ou qu'il est dans un des endroits, ou dans tous les endroits, ou qu'il a rempli les cieux et la terre, ou qu'il s'est incarné dans quelque chose, ou celui qui croit que les créatures seraient une partie de lui. Et tout ceci est de la mécréance claire, que Allah nous en préserve, et la cause de cela est l'ignorance de la vérité. Ici, il montre bien que la cause c'est l'ignorance, et donc l'ignorance ce n'est pas une excuse. Donc nous reverrons d'autres paroles de savants, incha'Allah, sur le sujet. Allah Ta'ala dit: Inna sharra ad-dawab 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Ce qui signifie certes les pires êtres se déplaçant sur terre selon le jugement de Allah sont ceux qui ont fait la mécréance, ils n'ont certes pas la foi. Sourate Al-Anfal, ayah 55. Allah Ta'ala dit: Qul ati'u Allah wa ar-rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin. Ce qui signifie: dit, obéissez à Allah et à son messager en entrant en islam, en ayant foi en Allah et en son messager. S'ils se détournent de la foi, certes Allah n'agrée pas les non-croyants. Fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: Inna Allah yu'ti ad-dunya, inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu man la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa liman ahab. C'est-à-dire Dieu donne les bienfaits matériels de cette vie à celui qui l'agrée et à celui qui n'agrée pas. Il donne la richesse matérielle aux musulmans et aux mécréants. Il a donné la souveraineté à Nomrud, le roi mécréant, et à Pharaon. Il a donné la souveraineté au prophète Suleyman, et à Dhulqarnayn, qui est un vertueux. Mais il ne donne la foi que à celui qui l'agrée. Ça veut dire, le signe que Dieu agrée une personne, c'est qu'il lui a donné la foi, qui fait mériter la récompense, la félicité éternelle qui n'a pas de fin au paradis. Alors que la mécréance fait mériter le châtiment éternel qui ne s'arrête jamais. Allah Ta'ala dit: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. Ce qui signifie: ils ont dit Dieu, Ar-Rahman, donc un nom qui est un nom de Dieu, ils ont dit: Ar-Rahman a pris un fils. Vous avez dit une chose très grave. À cause de cela, les cieux ont failli s'entrouvrir, la terre se fissurer et les montagnes s'affaisser du fait qu'ils ont attribué à Dieu le fils. Il n'est pas digne de Dieu d'avoir un fils. Il est impossible au sujet de Dieu d'avoir un fils. Ce verset et d'autres versets nous montrent qu'il faut employer un discours rapporté si on veut rapporter une parole contraire à l'islam. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Pharaon a dit: Je suis votre Seigneur, etc. Pour que les anges ne notent pas contre nous, on emploie un discours rapporté. Que cela soit par oral ou par écrit, si on veut rapporter une chose contraire à l'islam. Si on veut imprimer ou afficher ou mettre en lecture une audio dans laquelle il y a une chose contraire à l'islam, on dit: l'auteur a dit, avant d'appuyer, avant d'actionner. Comme on écrit l'auteur a dit avant d'écrire, ou on dit oralement l'auteur a dit avant de rapporter. Ceci est une règle importante en islam. Donc comme on a dit, l'islam est une condition de l'acceptation des bonnes œuvres pour être gagnant dans l'au-delà, pour avoir la récompense dans l'au-delà. Donc on a vu le verset qui signifie: les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête? Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête? Et il y a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. Ce qui signifie, certes Allah ne lèse pas le croyant pour les bonnes actions qu'il fait, il en sera rétribué par la subsistance dans le bas monde et récompensé dans l'au-delà. Quant au non-croyant, il sera rétribué pour ses bonnes œuvres dans cette vie, mais dans l'au-delà, il n'aura aucune récompense. Rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son Musnad. Ainsi, le non-croyant est rétribué pour ses bonnes œuvres dans cette vie, par le fait d'avoir la santé, la richesse matérielle, les enfants, par exemple. Et comme on a vu, l'imam Abu Hanifa, que Dieu l'agré, a dit « La yakunu imanun bila islam, wa la islamun bila iman, fahuma kadh-dhahri ma'al batn » Ce qui signifie « Il n'y a pas de foi pour une personne sans islam, ni d'islam pour une personne sans foi. Ils sont liés l'un à l'autre comme le sont la face et le revers d'une même chose. Ainsi, le non-musulman n'est pas appelé croyant. Le croyant est le musulman est le croyant. Donc c'est inséparable. Pour être croyant, il faut croire en Dieu, en son prophète. Pour être croyant, il faut croire en tous les prophètes, en les anges, en Dieu selon ce qui est digne de lui, en l'au-delà, en la prédestination de toute chose. Donc nous continuerons la suite la prochaine fois, Inch'Allah. Révisez bien. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'uh hatta yakuna muntahahu al-jannah. C'est-à-dire, le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend, ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend, jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. Nous poursuivons sur la langue arabe, inshallah, et nous sommes arrivés à la lettre Aïn. A, ou, I. A-U-I A-U-I En prolongeant donc A avec le alif U Dhamma et I avec le ya Kasra et ya I Ursum da'iratan hawla al-harfi A عصفور وزو عين أي سورس comme on a vu dans l'exégèse du Coran, un mot peut avoir plusieurs sens. Donc on ne peut pas traduire mot à mot comme ils font beaucoup de traductions qu'on trouve dans le commerce. Et on a mis en garde contre ce danger-là. عين أي سورس دمعة larme عروس marié ثعلب renard فزع frayeur ملعب stade صداع mal de tête صاعقة foudre مقعد un banc sur lequel on s'assoit ou le lieu où on s'assoit Oudon. Donc ça a plusieurs sens. Il y a notamment le bois odorant qu'on appelle l'oud ou le luth. Aounon, aide. Imaraton, donc construction, urbanisation, donc plusieurs sens. Wa'don, promesse. Uktub harf al-ayn hasab al-amthilat al-taliya. Écris la lettre Aïn selon les exemples suivants. A, ou, I. Donc au milieu. A, ou, I. À la fin, attaché. Et à la fin, non attaché. A, ou, I. Donc révisez bien. Donc le A, c'est une lettre du milieu de la gorge. A-U-I I'a Walhamdulillahi Rabbil Alameen Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Barakallahu fikum Wassalamu alaykum